Chapitre 24. Aurelio. Au réveil, le premier réflexe d'Aurelio fut de vérifier une nouvelle fois la position d'Eichronson via l'Isaac. Dernière position connue, Stroudsburg, Pennsylvanie. Bon sang, pensa Aurelio. Pourquoi l'Isaac n'arrivait-il pas à le localiser? Et pourquoi n'avait-il pas analysé ses agissements à Duane Park? Ce qui lui aurait valu d'être classé comme agent renégat. L'homme avait sciemment lancé une fausse alerte qui avait mis un collègue en danger et entraîné le massacre de civils. Que fallait-il de plus pour qu'il écope d'un cercle rouge? Quelque chose n'allait pas. Et non content d'ignorer la nature du problème, Diaz ne savait même pas quelles questions se poser afin de découvrir la vérité. Pour ne rien arranger, il n'était pas au bout de ses surprises. Plus tard, l'Isaac afficha un rapport de mission émis par la garnison de la JTF postée à Stroudsburg. Un agent de la division qui s'était identifié comme étant Eichronson était parti seul, de nuit, attaquer un groupe terroriste comptant faire sauter le pont d'une interstate avec du C4 volé. Avec 11 éliminations confirmées et une petite partie des explosifs récupérés, la mission était une réussite. Et au passage, il avait sauvé une fillette de 5 mois et l'avait ramenée au camp de la JTF. Ça ne collait pas du tout avec ce que Ronson avait fait la veille à Manhattan. Il contacta le Post Office Building de Manhattan et demanda à parler au lieutenant Hendrix. Elle n'avait pas l'air heureuse d'avoir de ces nouvelles. « J'espérais que vous auriez décrypté d'autres passages de la conversation, » lui dit-il. « Non, et on n'en aurait jamais récupéré autant » si on n'avait pas eu un appareil d'écoute à distance en place pour surveiller la zone. Je n'ai rien pu tirer du reste. Et le Michigan? Il y a quelque chose dans les briefings internes au sujet d'un truc qui s'y passerait et qui pourrait l'intéresser? Je peux toujours lancer une recherche, soupira Hendrix. Mais c'est grand, le Michigan. Et la JTF est très présente dans les grandes villes des environs, en particulier près de la frontière canadienne. Nos voisins ne plaisantent plus avec la sécurité aux frontières depuis l'épidémie. Alors ça implique de faire pas mal de tri, et je n'ai pas vraiment le temps. Et pour ce qui est de la personne qu'ils recherchent, je pense à la partie « quitter Manhattan ». Mais on n'est même pas certain qu'il soit à la recherche de quelqu'un, répondit Hendrix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va peut-être dans le Michigan, et que sur le chemin, il a fait un détour pour empêcher une attaque terroriste et sauver un bébé. « Désolé de vous le dire, agent Diaz, mais je ne suis plus tellement certaine d'avoir affaire à un sale type. »«
Il a sauvé un bébé et c'est génial. Mais ça ne ramènera pas les gens qu'il a abandonnés sur Duane Street. Et ça n'explique toujours pas pourquoi il essaie de dissimuler ses conversations avec des commanditaires dont on ne sait rien. »«
Directive 51, » asséna le lieutenant. « J'ai les mains liées. »«
Vous pouvez toujours continuer à suivre ses déplacements. C'est vraiment tout ce que je vous demande. »
« Je vous en prie. Je ferai mon possible, agent Diaz. Mais vous devez comprendre que je n'ai pas assez de bandes passantes pour suivre ce qui pourrait n'être qu'une fausse piste.
J'en ai bien conscience. Merci pour tout ce que vous pourrez faire.
Je vous appellerai quand j'en saurai davantage. Autre chose ?»«
Pas pour l'instant. Merci, lieutenant. »
Hendrix mit fin à la transmission. Et Aurelio réprima le besoin de tirer sur quelque chose, n'importe quoi, pour évacuer sa frustration. Il se mit plutôt à marcher. Il avait déjà son itinéraire en tête. D'abord, il devait prendre la route 22, qui serpentait à travers les montagnes, pour rejoindre la 322, qu'il suivrait ensuite jusqu'au nord-ouest de State College, avant de prendre l'I-80 à Clearfield, soit un trajet d'environ 210 km, avec beaucoup de dénivelé. Cela lui prendrait 3 jours s'il ne traînait pas. Puis il lui resterait 190 kilomètres à parcourir pour atteindre la frontière de l'Ohio, et enfin 320 pour arriver dans une ville digne de ce nom au Michigan. Heureusement que la SHD avait fourni une excellente paire de bottes à chacun de ses agents. En sortant de la ville, Aurelio s'arrêta dans une supérette pour voir s'il pouvait y trouver à grignoter. Il n'y avait pas grand-chose, mais il récupéra quand même une casquette des Washington Spears. Vu la chaleur,
Son bonnet était clairement de trop. Il prit quelques secondes afin d'en incurver correctement la visière, puis l'enfila et reprit sa route. En chemin, il vit des tas de chevreuils et de petits animaux, mais pas le moindre être humain. Il dut attendre de traverser le Susquehanna pour y apercevoir un bateau qui suivait le courant. À bord, un homme et une jeune fille pêchaient. Aurelio les regarda un moment, en se demandant où ils habitaient et à quoi ressemblait leur quotidien. Lui avait passé toute sa vie à Washington, avant de devoir partir pour New York 3 mois plus tôt. Il ne connaissait rien à la vie en dehors d'une grande ville, épidémie ou non. Le virus avait-il causé autant de dégâts dans les endroits plus reculés? Il imaginait sans peine des villages déserts, les gens s'étant rassemblés dans les métropoles, une fois l'électricité et d'autres infrastructures hors service. D'un autre côté, à condition d'avoir survécu à l'hiver et de posséder du matériel de chasse ou de pêche, survivre dans la campagne était peut-être plus facile. Il suffisait de cultiver un potager, d'apprendre à conserver ce que l'on faisait pousser et ce que l'on chassait ou pêchait, et il devait être possible d'approcher de l'autosuffisance. Du moins, tant qu'on n'avait pas d'accident et qu'on ne tombait pas malade. Il n'y avait sûrement pas de médecin à moins de 100 kilomètres. L'embarcation avança jusqu'à un coude. Avant qu'elle ne le dépasse et ne disparaisse, Aurelio vit la fille remonter un poisson qui s'agitait au bout de son hameçon, dans un scintillement d'écailles sous le soleil. Son père se pencha pour le décrocher, puis Diaz ne les vit plus et reprit sa route. À la tombée de la nuit, il n'avait pas croisé énormément de monde et aucun groupe de plus de 4 ou 5 personnes. Lorsque le soleil se coucha derrière les collines, il pénétra dans une ferme près de la route principale et d'une petite ville fluviale du nom de Port-Royal. Il effectua le tour du propriétaire pour s'assurer de ne pas déranger d'éventuels occupants. Mais la maison était poussiéreuse. Personne n'avait cuisiné ni même allumé un feu depuis longtemps. Le rez-de-chaussée était vide. Aurelio alluma une petite lampe torche et gravit les escaliers de l'entrée. À l'étage, il trouva une salle de bain et 3 chambres. Les 2 premières étaient vides. Mais dans la 3e, il découvrit 2 cadavres. Ceux d'un adulte et d'un enfant. Il n'en restait presque plus rien. Les animaux s'en étaient assurés. Il ne vit aucune arme, comme si ces 2 êtres étaient morts ensemble, allongés dans ce lit. Un drame de plus parmi des millions d'autres. Diaz redescendit dans la cuisine et fouilla les placards ainsi que le garde-manger. Les souris avaient tout ravagé à l'exception des boîtes de conserve, intactes et toujours bien rangées. Il ouvrit des pêches et du thon, qu'il mangea dans le noir en regardant par la fenêtre. Les étoiles apparaissaient puis s'éclipsaient derrière les nuages qui filaient dans un ciel nocturne éclairé par une demi-lune. Comme il avait soif, il tenta sa chance au robinet. Rien. Il finit alors son eau et décida de chercher un puits à l'arrière au matin. En attendant, il ne pouvait rien faire à part gamberger au sujet d'Ike Ronson et de ce qu'il comptait entreprendre dans le Michigan. Assis là à regarder la lune, Aurelio pensa que s'il avait accès au rapport de mission de la JTF, il pourrait effectuer lui-même les recherches qu'il avait demandées à Hendrix. L'Isaac n'avait pas l'air au mieux de sa forme ici, en campagne, dans les vallées profondes de la Pennsylvanie. Il sortit néanmoins sur le grand porche de la ferme et tenta d'accéder aux données qui l'intéressaient. En vain. Comme il ignorait si le problème venait de la bande passante ou de ses droits d'accès, il se contenta d'envoyer un message à Hendrix pour lui demander si elle voulait bien chercher des références au Michigan dans les rapports. S'il n'avait pas de ses nouvelles en approchant de Pittsburgh, il s'en occuperait lui-même, décida-t-il. Mais il n'avait rien d'un analyste, contrairement à elle. De plus, elle avait accès à des comptes rendus opérationnels et à des renseignements dont il ignorait jusqu'à l'existence. Donc, en somme, mieux valait qu'elle s'en charge. Il trouva un rocking chair et s'y assit. Il avait parcouru bien des kilomètres aujourd'hui, ce que ne manquait pas de lui rappeler ses pieds comme le bas de son dos. Il retira ses bottes et s'étira les jambes. Sa cheville n'avait pas désenflé depuis la fusillade de la Highline, mais elle lui faisait moins mal. « C'est le moment rêvé pour une bière », se dit-il. Ce qui l'incita à se relever pour retourner à la cuisine, où il fut ravi de trouver deux bières en haut du frigo. Sans faire attention à la moisissure qui s'épanouissait sur les clayettes du bas et autour du bac à légumes, il en prit une et retourna sous le porche. La marque ne lui disait rien. Sûrement une brasserie locale. Mais le breuvage était savoureux et sa fraîcheur particulièrement agréable. Aurelio réalisa qu'il n'avait pas à craindre qu'on l'attaque. Partout où il était allé, à New York ou à Washington, depuis le Black Friday, il avait dû rester constamment sur ses gardes. Le moindre relâchement aurait pu lui être fatal, à lui et parfois à beaucoup d'autres personnes. Mais ici, il verrait la moindre lumière approcher à plus d'un kilomètre. Et même s'il s'endormait, le plus petit grincement des planches de la terrasse suffirait à le réveiller dans la seconde. Il n'avait rien à craindre, un sentiment des plus étranges. Cela dit, il devait cette sécurité au fait que tous ceux qui avaient vécu dans les environs étaient morts ou avaient décidé de partir. Si c'était le prix à payer pour avoir la paix, Diaz se dit qu'il préférait autant devoir faire attention. Il n'était pas fait pour la vie en solitaire. Il avait besoin des autres. À commencer par ses enfants. Graciela n'était plus là, mais il lui restait toujours Ivan et Amelia. Plus il avançait vers l'ouest, loin d'eux, plus il avait l'impression de se tromper de combat. Mais il ne pouvait se soustraire à son devoir. Il avait prêté serment, et il honorerait ce serment avant de retourner à Washington. À cet instant, Aurelio haït Eichronson, pas parce qu'il savait précisément ce qu'il avait fait, mais parce que ce dernier le forçait à s'aventurer en Pennsylvanie et certainement dans le Michigan, ce qui repoussait de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le jour où il pourrait enfin s'occuper de ses enfants. Diaz ne pouvait pas les protéger d'ici. Cela le rongeait. Il avait décidé de partir pour New York parce qu'on avait besoin de lui là-bas. Mais à présent, la situation avait changé. Et au lieu d'entreprendre le chemin inverse, il se trouvait dans cette foutue ville de Port-Royal, à des centaines de kilomètres de Washington, assis dans le rocking chair d'un mort. Qui traquait-il au juste? Qu'est-ce qui pouvait bien justifier qu'un agent de la division déserte et poursuive quelqu'un sur près de 1000 kilomètres? Ces questions le taraudaient encore lorsqu'il arriva à Clearfield, 3 jours après avoir quitté Harrisburg. Hendrix ne l'avait pas recontacté. Il n'avait d'ailleurs eu aucune nouvelle de New York. L'Isaac avait manifestement un problème. La réception était aléatoire, et son ATH inutile. Aurelio vit du monde en ville, principalement près d'un restaurant situé à côté de l'I-80, le Dutch Pantry. Des attelages de chevaux attendaient dans le parking. Des Pennsylvania Dutch, constata-t-il. Il y avait beaucoup d'Amish dans les environs. La perte de l'électricité n'avait pas dû trop les affecter. Ils n'en utilisaient pas. Il regarda de nouveau les chariots et eut une idée.